France Culture, il est midi et demi. Tout de suite, le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Comment rééquilibrer les relations entre l'Union européenne d'un côté et le géant chinois de l'autre? Voilà plusieurs mois maintenant que Paris, Berlin et Bruxelles tentent de mettre en place une stratégie commune européenne, non sans difficulté ce matin encore. Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker étaient rassemblés à Paris avec Xi Jinping pour tenter de lui présenter un visage européen uni sur les grands dossiers mondiaux.
Les eurodéputés se prononcent aujourd'hui sur la réforme européenne du droit d'auteur. Dernière chance donc pour cette directive controversée d'être adoptée en plénière à Strasbourg avant les élections européennes.
Le déficit Le déficit public de la France a diminué plus que prévu l'an passé. Quant à la croissance moyenne sur l'année 2018, elle a gagné 0,1 point de plus que dans les précédentes estimations. Cela fait 4 ans, jour pour jour, que le Yémen est déchiré par un conflit dévastateur depuis qu'une coalition arabe sous commandement saoudien a décidé d'intervenir pour soutenir des forces pro-gouvernementales contre les rebelles houthis. Ce conflit a provoqué la pire catastrophe humanitaire au monde et fait quelques 10 000 morts, un bilan dont certaines ONG estiment qu'il pourrait même être largement supérieur.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, en demandant au roi d'Espagne des excuses publiques pour les abus commis contre les peuples indigènes de son pays, le président mexicain a pris le risque de rouvrir les plaies de la conquête espagnole, une requête sèchement rejetée depuis Madrid.
Enfin, nous reviendrons, Olivia, sur la découverte de ce tableau de Pablo Picasso volé il y a 20 ans sur un yacht dans le sud de la France et qui a refait surface aux Pays-Bas. Et puis à 12h55, ce sera bien entendu la grande table des idées.
Avec le plaisir d'accueillir un grand physicien, le prix Nobel Serge Laroche, qui sera notre invité dans la deuxième partie de la grande table. Il était lundi dernier au débat organisé par l'Élysée avec une soixantaine d'intellectuels. Il a donné de la voix, alerté sur l'état de la recherche française en plein décrochage. Nous en parlerons donc avec lui, état des lieux, dans la deuxième partie.
Merci et à tout à l'heure. Comment se poser en interlocuteur crédible face aux velléités expansionnistes de la Chine? Ou plus exactement, comment tenter de canaliser les ambitions tant économiques que diplomatiques de l'Empire du Milieu tout en essayant d'unifier une Europe divisée face aux appétits de Pékin? Voilà résumé peu ou prou l'enjeu de la réunion organisée ce matin au Palais de l'Élysée entre d'un côté le président Xi Jinping et de l'autre trois des plus importants dirigeants de l'Union européenne que sont Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker. Un double défi donc pour le vieux continent que la présentation d'un front commun Paris-Berlin-Bruxelles, bien que inédit, ne saurait toutefois suffire à définir une véritable et solide stratégie européenne. Et d'ailleurs, le président chinois en visite en Europe le sait bien, lui qui a considéré que les chemins de ces nouvelles routes de la soie devaient d'abord passer par Rome, manière de satisfaire, sinon les égoïsmes nationaux, à tout le moins toutes les initiatives bilatérales en ordre dispersé, les plus à même de céder aux sirènes de Pékin. Bertrand Galichet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Vous êtes en direct de l'Élysée, vous avez assisté donc ce matin à ce dialogue pluriel. Qu'en est-il ressorti? L'idéal européen a-t-il pris le pas sur les rapports avec la Chine, généralement motivé par un seul objectif, les affaires?
Oui, les affaires restent une préoccupation majeure, bien entendu. Depuis 2010, la Chine a investi en Europe plus de 145 milliards d'euros, une manne vue comme une opportunité par la plupart des pays d'Europe, surtout les plus fragiles financièrement. Mais l'Union européenne s'alarme désormais du risque de dépendance induit par ces investissements et entend réagir collectivement. Ce matin, sur le perron de l'Élysée, Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker étaient côte à côte pour accueillir Xi Jinping. Pour le président français, il faut changer de paradigme dans ce contexte tendu.
Je crois que notre volonté commune est d'éviter que la réponse à ces tensions ne soit dans la fracturation de l'ordre international commercial, dans une nouvelle conflictualité commerciale ou dans des politiques d'isolation ou de repli. Ce que nous voulons bâtir ensemble, c'est un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré, et de pouvoir œuvrer ensemble dans les prochains jours lors du sommet Union européenne-Chine avec le point de rendez-vous du G20 d'Osaka et dans les mois qui viennent sur un agenda conjoint de modernisation du multilatéralisme commercial.
Un front commun qui se présente comme un partenariat pour éviter de froisser le puissant dirigeant chinois, même si la Commission européenne considère Pékin comme un rival systémique. Jean-Claude Juncker souhaite remettre à plat les relations commerciales sino-européennes.
Je voudrais que s'instaure entre la Chine et l'Union européenne une réciprocité mieux articulée qu'en l'est à l'heure où nous sommes, parce qu'il faudra que les entreprises européennes trouvent le même degré d'ouverture pour ce qui est de l'accès au marché chinois que les entreprises chinoises trouve en Europe.
Le président chinois Xi Jinping, lui, se contente de répondre par des formules très générales sur la nécessaire coopération entre les nations et le respect des institutions internationales, mais sans prendre aucun engagement. Les 28 espèrent cadrer les ambitions chinoises en matière économique sans se priver des opportunités commerciales qu'offre ce gigantesque marché d'1,3 milliard d'habitants.
Merci Bertrand Galichet en direct de l'Élysée ainsi qu'un Romain Lukiens pour les moyens techniques. Est-ce pour ne pas interférer justement avec la visite d'État du président chinois que Nathalie Loiseau, diplomate de carrière, n'a toujours pas remis sa démission? La ministre des Affaires européennes devait quitter hier soir le gouvernement pour prendre la tête de liste de La République en marche pour les élections européennes. Elle devrait a priori le faire dans la journée, provoquant inévitablement un mini remaniement. Le nom de Clément Beaune, conseiller pour l'Europe à l'Élysée, est aujourd'hui le plus cité pour prendre les affaires européennes. Et puis, on évoque également un possible départ du porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, afin de se concentrer sur sa candidature au municipal de 2020 à Paris. Quant à Pascal Canfin, il confirme ce matin dans un entretien au journal Le Monde sa présence sur la liste pro-Macron aux élections du 26 mai. Celui qui avait pourtant refusé d'entrer au gouvernement l'été dernier, avant de décliner également à l'automne la tête de liste de La République en marche pour les européennes, justifie son ralliement au chef de l'État, non pas en invoquant une forme de sagesse, mais en assurant que l'écologie représentera bien le cœur de la liste et du programme porté par la majorité aux européennes. Le projet de loi santé doit être voté aujourd'hui en première lecture par les députés au terme de vifs échanges faisant écho au grand débat, notamment sur l'accès aux soins. Ce scrutin programmé en milieu d'après-midi vient clore un marathon d'une semaine sur quelques 1700 amendements et devrait donc acter un texte conjuguant à la fois révision de la carte hospitalière et fin du numerus clausus pour les étudiants en médecine. La bonne santé à présent de l'économie française. Ce matin, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, a dévoilé une légère révision à la hausse de la croissance en 2018 de 1,5 à 1,6%. Dans le même temps, on a appris que la France avait également enregistré un déficit public légèrement moins élevé que prévu l'an dernier, s'établissant à 2,5% du PIB au lieu des 2,6% promis par le gouvernement. Enfin, tous ces résultats ont permis à la dette publique de se stabiliser au même niveau qu'en 2017. Maxime Fayolle, bonjour.
Bonjour.
Alors ces bons résultats en réalité se vérifient vraiment à la marge, il n'en reste pas moins positif. Comment s'explique-t-il en revanche, Maxime, alors même qu'on nous alerte régulièrement sur les contraintes budgétaires liées à une conjoncture économique difficile?
Eh bien vous l'avez dit Thomas, la croissance pour 2018 a déjà été revue à la hausse, alors forcément cela permet d'afficher des bons chiffres en termes de déficit. Dans le détail, et c'est plutôt mécanique, l'INSEE explique que les dépenses reculent et que les recettes de l'État progresse. Alors les dépenses qui baissent, eh bien c'est notamment le cas dans les collectivités territoriales. Et là, la raison, elle est assez simple. Elle est due à la baisse des dotations de l'État à ces collectivités, ce qui a mis un coup d'arrêt à leurs dépenses. C'est ce que notait la Cour des comptes déjà en septembre dernier. Côté recettes, cette fois, la hausse de l'impôt sur le revenu de plus de 6% explique notamment leur augmentation, même si elle est en partie compensée par la baisse de la taxe d'habitation. Alors attention, ces bons chiffres ne signifient pas pour autant que la situation économique de la France est devenue idyllique, car si l'on essaye de se projeter un petit peu dans le futur, les chiffres pour 2019 s'annoncent plus compliqués pour l'exécutif. Pour le comprendre, on dispose déjà de deux éléments. Le premier, c'est une croissance en baisse attendue, 1,4% selon la Banque de France. Le gouvernement, lui, espère 1,7%. Le second, ce sont des dépenses nouvelles. La transformation du CICE en baisse de charges, ce qui va coûter 20 milliards d'euros aux finances publiques, et les mesures d'urgence promises pour satisfaire les gilets jaunes qui devraient coûter, elles, 10 autres milliards d'euros. Bercy envisage déjà un déficit 2019 qui dépasserait les critères européens et mise sur 3,2%, même prévision pour la Banque de France.
Merci Maxime Fayolle. Direction Baghouz à présent, deux jours après la chute annoncée du dernier réduit de l'État islamique en Syrie. Omar Waman, vous avez pu entrer dans cette localité, ou plus exactement ce bout de terre au fond du désert à proximité de l'Irak, et où pendant de très longues semaines, combattants kurdes et arabes soutenus par les occidentaux se sont donc battus contre les djihadistes. À quoi ressemblent aujourd'hui les lieux, Omar ?
Oui, effectivement, le dernier réduit du groupe État islamique, Bakou, est une ville en ruine. C'est un véritable paysage de désolation hein, qui s'offre à nous. Les maisons sont écrasées, les voitures éventrées. Il n'y a évidemment aucun civil dans cette ville. Et puis il y a les abords du fleuve, l'Euphrate. Vous savez que nous sommes aux confins de la Syrie, à l'extrême est. Dans cette zone, dernier réduit de Daesh, il y a ces campements. Des campements de fortune dans lesquels ont vécu des milliers de civils, femmes, enfants et combattants djihadistes. C'est là que s'est déroulée la dernière bataille. Nous sommes entrés dans ce campement et nous avons pu assister à des bombardements. Il y a toujours des bombardements. La zone est survolée par des avions de la coalition qui cherchent des cibles. Il y a des tunnels. On nous dit que dans ces tunnels se cacheraient les derniers irréductibles de Daesh qui refusent de se rendre, ce qui explique ces bombardements, ces avions qui ont longtemps tourné dans le ciel et qui ont frappé. Nous avons vu à quelques centaines de mètres de nous, à plusieurs reprises, une colonne de fumée noire monter vers le ciel.
À vous écouter, Omar, on comprend que, contrairement à ce qui avait été annoncé, il resterait donc des combattants.
Alors, ce que nous avons vu, ce sont ces colonnes de fumée noire suite à des bombardements des avions de la coalition internationale. Ce qui explique que dans ces tunnels, car la zone est truffée de galeries souterraines, c'est dans ces tunnels que se sont cachés les derniers combattants de Daesh. Certains se sont rendus dimanche, donc au lendemain de la déclaration de la victoire contre le groupe État islamique. Mais depuis, les bombardements se poursuivent. On a assisté à ces bombardements. On nous dit... Alors, sous couvert d'anonymat, ici et là, des combattants des forces démocratiques syriennes nous disent qu'il y a des cellules dormantes dans cette zone. Il y a des combattants qui ont refusé de se rendre et qui se cacheraient dans ces tunnels.
Merci Omar Waman, envoyé spécial à Baghouz en Syrie. En dépit de l'annonce d'un cessez-le-feu censé mettre fin à des hostilités faisant craindre une nouvelle confrontation ouverte dans l'enclave palestinienne de Gaza, les frappes israéliennes en représailles aux tirs de roquettes se sont poursuivies toute la nuit. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lequel brigue un nouveau mandat lors des élections législatives du 9 avril prochain, a décidé d'écourter la visite qu'il a entamée dimanche aux États-Unis, non sans avoir pris soin de remercier Donald Trump pour son décret présidentiel reconnaissant la souveraineté de l'État hébreu sur le plateau du Golan occupé militairement depuis 1967. C'était il y a 4 ans, le 26 mars 2015. L'Arabie Saoudite prenait la tête d'une coalition militaire au Yémen déclenchant des raids aériens pour soutenir des forces pro-gouvernementales contre les rebelles houssis. Et depuis, dans ce petit pays du bout de la péninsule arabique, rien n'est venu stopper ce conflit dévastateur à l'origine de la pire catastrophe humanitaire au monde. Rien, si ce n'est qu'à l'automne dernier, toutefois sans lien véritablement avec cette guerre, mais après la mort du journaliste Jamal Khashoggi, quand les regards se sont enfin tournés de façon plus sévère vers le royaume saoudien, l'Allemagne a elle décidé de geler jusqu'à nouvel ordre toutes ses ventes d'armes à Riyad. Un acte depuis critiqué non seulement par la France mais aussi le Royaume-Uni. Une correspondance à Berlin signée Ludovic Piétenu.
C'est pourtant un business juteux, l'Allemagne fait partie des tout premiers pays exportateurs d'armes au monde et l'Arabie Saoudite l'un des premiers à les acheter. Riyad était l'an passé le deuxième partenaire de Berlin derrière Alger. Ce sont 420 millions d'euros de contrats d'armement approuvés courant 2018 et prêts pour la livraison qui sont toujours gelés. Depuis 5 mois, Berlin tient bon. L'Allemagne a prolongé par 2 fois cette suspension des exportations vers l'Arabie Saoudite en espérant des développements positifs du conflit au Yémen. À l'origine, pour plus d'efficacité, Berlin appelait à un boycott mené par tous les Européens, mais il assume aujourd'hui seul un choix basé sur la morale et la diplomatie au détriment de son économie. Et qui nuit aussi à des pays avec qui il est question de construire l'Europe de la défense et qui sont les cadors dans l'industrie de l'armement, le Royaume-Uni mais surtout la France, qui partage déjà une partie de ses contrats d'armement avec l'Allemagne. Ce gel serait un manque à gagner pour une cinquantaine d'entreprises françaises, d'où la pression exercée par Paris, qui ne fait qu'attiser les divisions au sein du gouvernement allemand de coalition entre d'un côté les sociaux-démocrates sur une ligne de fermeté et de l'autre les conservateurs de Mme Merkel pour une levée de cet embargo et une action cohérente au niveau européen. Un arbitrage est promis avant la fin de la semaine.
Après tant de désillusions, faut-il encore parler d'humiliation pour Theresa May? Si certains jugent aujourd'hui la position de la première ministre britannique intenable, c'est surtout parce que les tribulations autour du Brexit auront conduit à une véritable crise institutionnelle au Royaume-Uni de nature à renverser l'équilibre des pouvoirs. Dernier exemple en date hier, après que Theresa May a dû reconnaître que l'accord de Brexit n'avait toujours pas le soutien suffisant au Parlement pour être soumis à une troisième fois au vote des députés, les élus de la Chambre des communes ont voté à une une courte majorité, un amendement destiné à permettre à ces mêmes parlementaires de reprendre la main sur le processus du Brexit dès demain. Westminster pourra ainsi organiser une série de votes indicatifs sur les différentes options de divorce possibles entre Londres et Bruxelles et ainsi essayer de dégager enfin une majorité sur le Brexit, le maintien dans le marché unique, un nouveau référendum, voire l'annulation de la sortie de l'UE. Voilà quelques-uns des scénarios sur lesquels les élus pourraient donc être amenés à donner leur avis demain. À deux mois maintenant des élections européennes, nombreux sont les observateurs à prédire une percée en main en mai prochain des populistes, souvent considérés comme europhobes. Mais qui sont-ils exactement? Entre les souverainistes, les anti-systèmes ou l'extrême droite, le tableau est souvent composite. En Scandinavie, par exemple, où le parti d'extrême droite, démocrate de Suède, ne cesse de progresser dans les urnes, les sondages les créditent de 19% à présent aux prochaines européennes, soit 2 points de plus qu'aux dernières législatives de septembre. Alors pour mieux tenter de comprendre ce dynamisme, Audrey Tison s'est rendue au Parlement suédois en plein centre de la capitale Stockholm.
Nous voici dans le palais du Riksdag. On y retrouve l'un des plus jeunes députés de l'histoire du pays.
Tobias Andersson, 22 år gammal.
Tobias Andersson, 22 ans, boit le café avec ses collègues du groupe démocrate de Suède.
On est passé de 49 à 62 députés maintenant. On est le troisième parti du Parlement. Ils ont dû réorganiser le bâtiment pour nous, pour faire rentrer les équipes. Oui, nous sommes un gros parti maintenant.
Plus de 17% des voix aux dernières législatives, alors que le parti n'avait que quelques conseillers municipaux dans les années 90. Pour convaincre le plus grand nombre, les démocrates de Suède se concentrent sur quelques priorités.
On soutient le système d'aide sociale suédois, mais on veut abaisser les impôts et les dépenses publiques. Et puis, on se concentre aussi sur le crime et l'immigration. En 2015, on a accueilli 160 000 migrants rapportés à notre population. C'est le taux le plus important de toute l'Union européenne. Et ça a été dévastateur pour notre économie, mais aussi pour notre culture et notre sécurité.
Immigration égale danger. C'est surtout ce thème qui a propulsé le parti populiste, analyse Michel Micheletti, professeur de sciences politiques à l'Université de Stockholm.
Les autres partis ont dû se poser par rapport à ce que disaient les démocrates. Et ça leur a donné une certaine force, car ce sont eux qui ont dicté l'agenda et les médias ont suivi aussi.
D'après elle, les démocrates de Suède jouissent d'une image de gens normaux, du peuple. C'est aussi le résultat d'un travail de dédiabolisation du mouvement ces dernières années.
Ils ont des racines dans le néonazisme et ils ont passé énormément de temps à se débarrasser de membres qui avaient exprimé ce genre de valeurs.
Ce qui n'empêche pas les leaders du parti de continuer à montrer du doigt les migrants en choisissant leur vocabulaire.
Si le président mexicain souhaite profiter du bicentenaire de l'indépendance de son pays pour faire de l'année 2021 celle de la réconciliation avec l'ancien envahisseur, selon lui, les plaies de la conquête espagnole ne sauraient pour autant être refermées sans avoir obtenu précédemment des excuses public pour les abus commis contre les peuples indigènes. Et c'est ainsi qu'hier, on a appris qu'Andrés Manuel López Obrador avait envoyé une lettre, non seulement au roi d'Espagne, mais aussi au pape, pour qu'il demande pardon pour les violations de ce qu'on nomme aujourd'hui les droits de l'homme. Seulement voilà, s'agissant de Madrid, la réponse a été aussi rapide que sans équivoque, un non ferme et définitif, même si le gouvernement espagnol affirme toutefois espérer intensifier ses relations amicales avec le Mexique. Les précisions de notre correspondante Marie-Hélène Ballestero.
Le président mexicain a jeté un pavé dans la mare. Pour lui, il ne s'agit pas de ressusciter les différends, mais de les exposer et de ne pas les garder enfouis, car il reste encore des plaies ouvertes. López Obrador souligne que pendant la conquête, qui a démarré il y a 500 ans avec l'arrivée du conquistador espagnol Cortés, il y a eu des massacres, des levées d'impôts, une conquête qui s'est faite avec l'épée et la croix. Selon le président mexicain, le temps de se réconcilier est venu, mais d'abord, ils doivent présenter des excuses au peuple indigène du Mexique. Lui-même est prêt à demander pardon pour l'extermination des peuples autochtones dans le Mexique indépendant. La réponse du gouvernement espagnol ne s'est pas fait attendre. Tout d'abord, l'exécutif de Pedro Sanchez a regretté que la lettre envoyée récemment par le président mexicain au roi Felipe VI, dont il rejette fermement le contenu, ait été rendue publique. Par ailleurs, le gouvernement socialiste espagnol rappelle que l'arrivée il y a 500 ans des Espagnols sur le territoire mexicain actuel ne peut pas être jugée à la lumière des considérations contemporaines. Nos peuples frères ont toujours su lire le passé sans colère et dans une perspective constructive, poursuit le communiqué publié hier par le palais de la Moncloa à Madrid. En janvier dernier, le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a effectué une visite officielle au Mexique. D'ailleurs, ce fut le premier dirigeant étranger à rendre visite à López Obrador après sa prise de fonction. Les deux pays ont réaffirmé à cette occasion leur lien d'amitié et de coopération. Mais deux mois plus tard, le torchon brûle.
Lui a choisi hier d'ordonner des commémorations pour célébrer le 55e anniversaire du coup d'État du 31 mars 1964, coup d'État qui avait installé une dictature militaire durant les deux décennies suivantes. Lui, c'est le président brésilien Jair Bolsonaro, admirateur avoué de cette période sombre de l'histoire de son pays. Mais pas seulement d'ailleurs, puisque depuis sa prise de fonction thuriféraire du régime militaire au Brésil, Jair Bolsonaro a également cautionné toutes les autres dictatures latino-américaine des années 70 et 80. Et puis toujours au Brésil, Michel Temer est lui sorti de prison 4 jours après son arrestation. L'ancien président avait été arrêté jeudi dernier, soupçonné d'être à la tête d'une organisation criminelle ayant détourné des centaines de millions d'euros. Le juge a estimé que les accusations concernaient des faits anciens ne justifiant pas un placement en détention provisoire. Le Venezuela, de nouveau plongé dans le noir, une nouvelle panne de courant infecte depuis hier certains quartiers de Caracas, mais aussi plusieurs grandes villes du pays. Une panne attribuée, comme la précédente par le gouvernement, à une attaque contre une centrale hydroélectrique, ce que dément l'opposition. C'est aujourd'hui que le Parlement européen doit se prononcer sur la réforme du droit d'auteur, laquelle entend adapter à l'ère du numérique la législation de l'UE. Un vote décisif donc pour ce texte défendu par les médias, les artistes, mais combattu par les plateformes américaines, mais aussi les partisans de la liberté du net. Depuis sa présentation par la Commission, c'était en 2016, cette réforme aux enjeux financiers conséquents aura fait l'objet d'un lobbying sans précédent. Et ce matin encore, jusqu'au dernier jour, cette directive controversée aura fait l'objet d'un ultime débat en pleine hier à Strasbourg dans une ambiance électrique. Compte rendu signé de notre correspondante Johanna Hochstein.
Il s'agit de rééquilibrer les rapports de force entre les géants de l'Internet et les créateurs de contenu, expliquent les députés qui portent cette réforme. Des auteurs, des chanteurs, des journalistes qui doivent toucher une juste part des revenus générés par la publicité et la monétisation de leurs œuvres sur la toile, insiste Patrick Lejarric. Le député du Front de Gauche et directeur du quotidien L'Humanité dénonce la campagne de lobbying des GAFA.
On comprend les pressions et les appétits des géants du numérique. Quand on sait que la création dans l'Union européenne représente 536 milliards d'euros par an, il y a aujourd'hui plus de personnes qui travaillent dans les secteurs de la création et de la culture que dans l'automobile et les télécoms réunis.
Au cœur des débats ce matin, encore et toujours l'article 13, devenu article 17 dans la dernière mouture du texte, un article qui rend responsable Facebook et Google du contenu hébergé sur leur page, aux géants de l'Internet donc de supprimer du contenu si son auteur n'a pas été rémunéré équitablement. C'est la porte ouverte à la censure, s'indignent les opposants au texte. Julia Reda, eurodéputée membre du parti pirate, demande de retirer cet article. Vous ne pouvez pas ignorer les 200 000 personnes qui ont défilé dans les rues ce week-end contre la directive, insiste-t-elle. Vous ne pouvez pas ignorer les 5 millions d'internautes qui ont appelé à voter contre ce texte. Ce serait une gifle pour la démocratie et cette attitude alimenterait encore davantage les discours eurosceptiques, poursuit-elle.
Et on vient de l'apprendre, le Parlement européen vient donc d'adopter la directive sur le droit d'auteur sur Internet. Une histoire étonnante à présent, celle de la découverte après 2 décennies de recherches infructueuses d'un tableau de Picasso, l'œuvre, un portrait de Dora Maar volé en 1999 sur le yacht d'un richissime saoudien amarré à Antibes a été retrouvé à l'issue d'une longue enquête menée par un expert d'art néerlandais, Arthur Brandt, surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art. Les précisions d'Angélique Bouin.
Après 20 ans, les collectionneurs d'art n'imaginaient pas un jour revoir ce tableau que Picasso aimait tout particulièrement. Il n'avait été vendu qu'après sa mort. Et c'est donc Arthur Brandt, surnommé l'Indiana Jones du monde de l'art, qui a pu le récupérer en enquêtant pendant 4 ans dans le milieu mafieux aux Pays-Bas. La rumeur disait que le tableau passait de main en main, souvent utilisé comme garantie dans des affaires de drogue ou de vente d'armes. C'était vrai, dit-il. Dans la presse néerlandaise, Brandt raconte avoir rencontré un jour un agent immobilier qui lui confie l'avoir possédé, puis échangé. L'expert suit le fil, fait savoir que le vol est et prescrit. C'est ce qui aurait provoqué sa restitution. Une nuit, deux hommes frappent à sa porte. Le tableau est là, enveloppé dans un drap et des sacs poubelles noires. Une œuvre estimée, selon l'expert, à 25 millions d'euros. Son propriétaire, un homme d'affaires affligé, raconte encore Brandt, aurait découvert tardivement qu'il était volé. Ce buste de femme de Dora Maar, maîtresse du peintre, a été rendu le lendemain à la compagnie d'assurance qui avait indemnisé son propriétaire. Mais l'huile sur toile a d'abord passé le reste de la nuit sur le mur de l'enquêteur. Un moment magique, conclut-il.
On termine avec un mot rapide de météo. Du soleil sur la majeure partie du pays. Seule la région Grand Est conservera un temps plus mitigé. Quant aux températures, elles seront généralement comprises entre 10 et 18 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.